Bonjour, vous êtes bien sur Radio Z. Pour situer un peu quelle radio nous animons, j'aimerais vous dire deux mots. D'abord, Radio Z est animée par les patients de Sainte-Marie et c'est la fédération socio-thérapeutique de l'hôpital qui organise ces rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez laisser des commentaires sur la radio blog Arte sur lequel vous écoutez les émissions. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler les villes où l'on s'amuse le plus, aussi que les remèdes de grand-mère ou encore la musique.
Qui est le numéro 1 ?
Radio Z.
Attention, vous entrez dans la
Radio Z
dimension.
Première chronique.
Ok, donc je me lance. Alors moi j'aurais voulu vous parler des villes où l'on s'amuse le plus dans le monde. Donc on connaît cette manie de classer les villes, qu'elles soient les plus chères, les plus agréables, les plus écologiques. Mais moi je vais vous parler des villes où on s'amuse le plus. Donc ça a été une étude hiérarchisée par un magazine qui s'appelle Time Out et qui voit 32 villes avoir été choisies par le monde. Alors, les critères retenus ont été la bouffe, la nourriture, la culture, le coût de la vie, le bonheur, de manière générale, la facilité à s'installer ou encore la convivialité. Au niveau des résultats, l'Europe est surreprésentée avec une longue liste de cités. Donc, il y a Porto, Londres, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Édimbourg, Paris, qui se retrouve 14e. Manchester, Berlin ou Zurich.
Et Nice.
Nice, ils n'y sont pas. Le pays le plus représenté, c'est les États-Unis, avec plus de 9 villes mises en avant dans le classement. Il n'y aura aucune ville d'Amérique du Sud. Il y a un petit peu d'Asie, avec Shanghai, Tokyo, Pékin, Bangkok ou Hong Kong. Alors, à votre avis, c'est quoi la ville la plus...
New York, allez.
Non, New York, c'est seulement 3e.
Los Angeles.
Los Angeles n'y figure même pas. Non. Donc le trio de tête...
Venise.
Non, le trio... Alors les deux premières, c'est Chicago.
Ah bon, avant New York.
Ouais. Ensuite, il y a Porto et New York. Okay. Donc la ville de Chicago, apparemment, elle gagne à être connue pour ses bars, sa scène musicale, sa culture et son accessibilité financière.
Bon, on va organiser un jeu où on gagne
un voyage à Chicago. Ensuite, il y a Porto, qui apparemment serait idéal pour se faire des amis, trouver l'amour, se sentir libre d'être soi-même et rester en contact avec sa famille.
C'est où,
et
Porto?
Enfin, au Portugal. Et enfin, New York, pour sa culture, sa vie la nuit tombée, la nourriture et les boissons. Bien que Time Out note que New York reste aussi l'une des villes les plus stressantes du monde.
Ah bon.
Ouais, c'est New York, on dit que c'est la ville qui ne dort jamais.
Exactement. Et pour Paris, sachez que ce magazine souligne que Paris est donc la ville où l'on fait le plus l'amour au monde. Notant en même temps que le bonheur ne figure pas parmi ses avantages, comme la qualité de vie. Voilà, est-ce que vous voulez le classement final des villes ou pas ?
Oui.
On va laisser rentrer Marie-Thérèse. Bonjour.
Bonjour. On croyait que tu venais pas à nous. Ah ouais. Elle a la chronique. Ah.
La chronique mystère de Marie-Thérèse est tellement mystère qu'on ne savait même pas si elle allait venir. On parlait des villes où on s'amuse le plus dans le monde. À votre avis, c'est quoi la ville où on s'amuse le plus dans le monde ? Bonne question, ça. Hein ?
Ouais. Donc, dans le monde. Peut-être chez les Asiatiques.
La première ville asiatique, elle est en 16e position. Bon, je vous donne les 10 premières, on ne va peut-être pas toutes les faire.
Oui.
Donc, on a Chicago en première position, Porto, New York,
Chicago, ça craignait avant.
Et oui, bah, apparemment, maintenant, c'est,
oui, maintenant, c'est ça a évolué. J'ai vu une émission, ça devient un quartier à la mode.
Ouais. Approche-toi peut-être de ce... De...
Le micro,
alors, les micros, on ne les déplace pas. Il faut que tu te déplaces, mais...
Ah, d'accord.
Voilà, parce que lui, du coup, il faut qu'on entende aussi. Si ouais. Pas. Alors, donc, on a Chicago, Porto, New York, Melbourne, Londres, Madrid, Manchester, Lisbonne, Philadelphie et Barcelone. Et donc Paris est la première ville française classée 14e. Et pas de Los Angeles. Bizarrement.
Allez.
J'ai la suite du classement donc, ici. Ah si, Los Angeles, 20e, pardon. Excusez-moi.
Je rajoute à la chronique, mystère.
Oui, on en parlera après. Alors, que pensez-vous ? Ces classements-là, c'est un peu...
Est-ce qu'ils expliquent pourquoi ces classements, comment, sur quels critères ont été faits ces classements ?
Oui, je l'ai dit.
Est-ce que c'est sur un sondage sur un certain nombre de personnes ou...
Ah, ça, par contre, non. Ils ont classé... J'imagine qu'il y a plusieurs journalistes qui sont allés faire leurs enquêtes. Donc, sur la nourriture, la culture, le coût de la vie, la facilité à s'installer, la convivialité, les boissons et le bonheur. Entre guillemets.
Mais justement, le coût de la vie n'est-il
pas... Non, pas le micro, Sybille.
Le coût de la vie n'est-il pas trop cher, justement, dans ces villes-là ? Dans le top 3, j'ai l'impression que ce sont des villes, quand même, qui...
Et je pense, je suis pas sûr que Porto, ça coûte si cher que ça.
Porto, non, peut-être pas. Oui, c'est peut-être pour ça.
C'est au sud, Porto ?
Je sais, honnêtement, là, je sais pas. Oui. Honnêtement, ça, je sais pas.
Moins de l'amusement.
Ouais. Oui, après, au niveau de l'amusement, je pense qu'effectivement, c'est cher. Est-ce que vous êtes déjà allé, vous, dans une de ces villes ?
Non.
Est-ce que vous êtes déjà allé dans l'une de ces villes ?
Non, jamais.
Non, jamais ?
Je suis allé en Espagne, mais ça fait partie du top 10.
Et Paris ?
Il y a Lisbonne.
Paris, 14e.
À Paris, oui, j'ai vécu, moi.
Oui. Est-ce que c'est une ville où on s'amuse ?
Personnellement, je ne me suis pas amusée.
Ah ben, voilà.
C'était très bien tant que je travaillais, mais quand j'ai arrêté de travailler, j'ai fait une dépression et je suis revenue à Nice.
Moi, j'avais des copines qui faisaient leurs études à Paris. Elles vivaient au dernier étage dans
une chambre de bonne.
Dans une chambre de bonne toute petite.
J'ai vécu dans une chambre de bonne pendant un an. Avec les toilettes sur
le palier. À Paris, de toute façon, c'est un peu le lot obligatoire, malheureusement.
La ville est chère là-bas.
Non, par contre, c'est intéressant au niveau culturel. Ça, Paris, au niveau culturel, moi, je me régale. Chaque fois que je vais à Paris, je fais tous les musées qui sont sur mon passage.
Bon voilà, en tout cas, si ça peut vous donner des idées de voyage. On peut peut-être passer à la chronique suivante.
Alors, les remèdes de grand-mère par Véro.
Alors, que valent les remèdes de grand-mère ? Délaissés au XIXe siècle, ces traditions font leur retour dans les laboratoires de recherche et dans les hôpitaux. Alors, il y a divers remèdes. Il y a le pansement aux asticots. Ça a l'air un peu dégueulasse, mais bon. Les larves de mouches qui ont obtenu leur reconnaissance en 2004, elles contribuent à la cicatrisation des plaies. Les asticots tuent les bactéries. Pendant la Première Guerre mondiale, un chirurgien a constaté leurs bienfaits sur les soldats dont les plaies étaient recouvertes de larves.
Pour moi, les asticots, c'est la lèpre.
Non.
Ce qu'elle dit, c'est tout à fait vrai, vérifié.
Et aujourd'hui, on fait des pansements à base de sécrétions d'asticots au CHU de Saint-Étienne.
Et de bave d'escargot aussi.
La morsure de sangsue, ensuite, il y a la bave d'escargot aussi, j'y viendrai. Il y a la morsure de sangsue, elles sont capables de sucer 10 fois leur poids en sang en une heure. On s'en sert pour les greffes de doigts, de peau et d'oreilles. Quand la remontée de sang se fait parfois mal, l'animal injecte de l'iridine, un anticoagulant qui améliore le retour veineux. Elles sont comme des seringues à usage unique. Ensuite, il y a l'alcool de vipère, vertu pour les rhumatismes, les maladies de peau, les maux de ventre, mais rien n'est prouvé. Ces croyances remontent à l'Antiquité. La vipère plongée vivante dans un flacon d'eau de vie se noie et libère son venin. Cette concoction est interdite depuis 1979. Le sirop à la bave d'escargot, que tu disais, en 1855, un pharmacien de Béziers affirme que cette préparation est employée contre les toux opiniâtres, les bronchites et les catarrhes.
Maintenant, ils le font aussi pour les rides.
Ouais. Et c'est à partir de la bave d'escargot de Bourgogne que l'on extrait les lycidines. De nos jours, les sirops contre les toux sèches contiennent ce principe actif qui apaise les bronches, mais considéré comme peu efficace. En 2010, ils sont interdits aux enfants de moins de 2 ans, car des cas d'aggravation des troubles respiratoires ont été enregistrés. Le sirop à la base des lycidines qui donne ici à l'hôpital, c'est le paxiladine.
Et il y a quoi dedans ?
Pour les toux sèches, il y a de l'hélicidine.
C'est quoi l'hélicidine ?
C'est l'extrait de bave d'escargot de Bourgogne.
Plus jamais je me soigne.
Les piqûres d'abeilles. Le venin d'abeille a des vertus anti-inflammatoires. Leurs bienfaits ont donné naissance à l'acupuncture. Elle pique les zones douloureuses et le venin se propage. Homologué en Chine depuis une dizaine d'années, cette méthode lutte contre la sclérose en plaques, l'arthrite ou la maladie de Parkinson. Les études publiées n'ont apporté aucune preuve de son efficacité. Un thérapeute en France qui a vanté ses mérites a été condamné pour exercice illégal de la médecine.
Oh non. Et alors, les ailes de chauve-souris.
Quoi donc ?
Les ailes de chauve-souris.
Ah non, ça, ils n'en ont pas parlé. Là, il parle de la poudre de cloporte aussi.
Les petits, non, les petits qui se mettent en rond, tu sais.
Ils se mettent en boule.
Une espèce de carapace. Ils sont dans les lieux humides, sous les pierres.
Au XVIIIe siècle, ces bêtes étaient consommées en poudre, intégrées aux baumes du Pérou et du safran, réputées pour soigner les maladies pulmonaires et pour son action antidiurétique. Aujourd'hui, l'homéopathie fait usage de la poudre de cloporte pour lutter contre l'asthme.
Alors, on va mettre la poudre de cloporte en solution, on va la verser dans la cigarette électronique, on fumera la poudre de cloporte et on n'aura ni plus d'asthme, plus rien du tout.
Ça pourrait être
une solution. On sera guéri.
C'est un peu... C'est pas reconnu, hein,
tout ça.
Merci Véro.
Ils envoient des petits.
C'est pas très ragoûtant, hein, tout ça.
Ils font des bains qui...
C'est dingue.
Il y a Raphaël qui essaie de dire quelque chose. Laisse-le.
Dans Chine, je sais qu'ils font des... Au Japon, je sais plus, ils font des bains... des bains de pieds avec plein de poissons qui viennent manger les peaux mortes.
C'est maintenant ici en Europe.
Ça m'est arrivé aussi.
Dans les thalassos, dans les endroits où on se fait faire des massages, les soins des mains ou quoi. Je pense même à Nice, il y a ça devient quasi fréquent.
Ça m'est arrivé, de me mettre une rivière et puis il y avait des poissons qui venaient manger les peaux mortes.
Et alors, tu l'as attrapé, la truite ?
Non, je l'ai laissé faire, moi. C'était pas agréable. J'aime pas les algues, mais les poissons qui venaient sur moi, ça me dérangeait pas.
Après, si c'est des piranhas... Attention, ça nettoie jusqu'à le sein.
Vous avez d'autres remèdes de grand-mère, vous, qu'on aurait voulu
Pour le hockey, un sucre avec du vinaigre.
Ah, je connais ça aussi,
Oui. Moi, pour le hockey, je connaissais arrête de respirer et ça va s'arrêter.
Alors, pour les...
Boire un verre d'eau à l'envers.
Oui, voilà.
Pour les verrues planes sur le front.
C'est radical, le sucre avec le vinaigre, c'est dégueulasse.
Ça n'a pas marché non plus.
C'est dégueulasse, mais c'est radical.
Pour les verrues planes, c'est un pharmacien qui nous l'avait conseillé. Tu prends un morceau de lard, tu la passes sur les verrues planes de ton fils. Après, tu plantes la verrue plane à la pleine lune et les verrues, elles disparaissent, c'est vrai.
Il y a autre chose pour les verrues.
Radio Z, premier sur le bon plan.
Il y a autre chose pour les verrues que je connais, moi, c'est le lait de figue. En fait, quand on prend une figue, il y a toujours un lait qui est dessus et on met le lait de figue sur la verrue et la verrue, elle disparaît.
D'accord. Ah, ouais. On espère que nos auditeurs ont des verrues. Enfin, on n'espère pas, mais en tout cas, si vous avez des verrues,
comme un bon on a des solutions. Sur un hématome. Un steak.
Ouais. Après, où elle est la viande hein.
C'est vrai
voilà. Un escalope, je crois.
Une escalope.
Fraîche, quoi. Je pense que c'est le côté frais
qui sympa, ça.
Voilà. Mais bon.
Eh ben, on est contents.
Bah, avec ça marche bien.
D'accord.
On doit dégonfler, tout ça.
C'est ça.
Eh ben, merci Véronique. Hein.
De rien.
Merci Véro.
Je prends la suite.
Oui.
Ça vous dit
alors après musique la musique, vas-y, explique-nous.
Est-ce que vous êtes des mélomanes
On aime la musique, oui.
Averti. Alors, moi, je vais vous parler du fait que la musique qu'on écoutait à l'âge de 14 ans, eh ben, en fait, des études ont été faites et il a été prouvé qu'elle va vous suivre toute votre vie.
Ah ouais. Alors, j'écoutais de la musique gothique, moi, à 14 ans.
Et pas 11 ans et pas 15 ans.
Sybille. J'ai à peine commencé l'introduction, je vais y arriver. Donc, il existe un vieux proverbe qui dit qu'on ne peut pas fuir son passé. Et donc, cette récente étude vient le confirmer en nous montrant qu'il y a quelque chose qui reste gravé profondément en nous lorsque nous atteignons l'âge adulte. C'est la musique de notre adolescence. Alors, il y a un journaliste et économiste qui s'appelle Seth Stephens Davidowitz, on va l'appeler Seth, hein, ce sera plus simple. Donc Seth, c'est cette personne qui est à l'origine de la théorie, de cette théorie-là, et il se base sur son exploitation de la base de données de Spotify. Spotify, c'est un service en ligne d'écoute de musique, d'accord, payant ou gratuit, mais c'est mieux si on paye. Donc il a cherché à déterminer la popularité d'une chanson en fonction de l'âge et du sexe de ceux qui l'écoutent. Pour parvenir à ça, il a donc comparé les plus gros succès du Billboard. Alors, le Billboard, c'est un magazine hebdomadaire américain qui est consacré à l'industrie du disque. Donc, il a comparé les plus gros succès du Billboard entre 1960 et 2000 en fonction de l'âge qu'ont les plus fervents auditeurs aujourd'hui et l'âge qu'ils avaient lorsque ces chansons sont sorties. Son constat est le suivant. Un homme découvre ses chansons préférées autour de ses 14 ans. Et les femmes les découvrent en moyenne autour de leurs 13 ans. Il a également constaté que les influences de l'enfance étaient plus fortes chez les femmes que chez les hommes, et que les années clés pour façonner ses goûts musicaux coïncidaient avec la fin de la puberté. Donc, jusque-là, il n'y a rien de très surprenant, puisque cette période correspond bien souvent chez un individu, et quel que soit son sexe, à une recherche de soi-même et de son identité. Et donc, quel meilleur moyen pour se forger son caractère que la musique. Et puisque donc, s'il n'avait pas fini de nous convaincre, ce fameux Seth, il a choisi d'illustrer ses propos avec la chanson Creep de Radiohead.
Me creep, tu sais ce que ça veut dire ?
Celle-là, oui, je sais ce que ça veut dire.
C'est-à-dire un mauvais garçon. Like you.
Donc, avec cette chanson de Radiohead, donc selon ses dires, il s'agit de la 164e chanson la plus populaire chez les hommes de 38 ans. Donc, ceux qui avaient 14 ans en 1993, lorsque le morceau est sorti.
T'as quel âge ?
J'ai pas 38 ans.
Mais t'es plus jeune.
Prenons maintenant les auditeurs nés 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard, donc en 2003 ou en 1993. Ce même titre n'est même pas présent dans leur top 300. Donc, cette illustration n'a pour l'instant rien d'inédit. C'est une tendance constante. Mais en tout cas, la science des chiffres a parlé. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez 14 ans, il y a donc fort à parier que votre musique du moment deviendra pour vous intemporelle. Les autres, il ne vous reste plus qu'à faire un petit retour en arrière pour nous confirmer ça.
Okay. Comment il s'appelle celui qui a une villa, d'honneur, alors, citoyen d'honneur à Nice ?
Elton John.
C'était la musique que j'écoutais
très bien. Et alors, aujourd'hui
je l'écoute pas toujours aujourd'hui, mais quand je l'écoute, ça me plaît.
Et voilà.
Tu vois. Et toi, Mathieu, c'était quoi ton groupe à 14 ans ?
Moi, à 14 ans, c'était les groupes américains, genre Blink 182.
Je connais pas.
Linkin Park, Sum 41.
Le rock californien. Ouais,
le rock californien, un peu.
Ah ouais. Je connais pas du tout ce style.
Et maintenant ?
Maintenant, c'est un peu tout. Moi, j'aime la musique. J'aime vraiment beaucoup de styles différents. Je ne saurais pas qualifier un seul. Mais j'écoute toujours de temps en temps. Pas régulièrement, mais j'écoute toujours de temps en temps. C'est... Le petit rock californien, ça m'a fait repartir.
Mais il paraît, donc, c'est justement qu'on disait que quand une mère, elle attend son enfant, la musique qu'on lui fait écouter, que l'enfant entend depuis le ventre de la mère, va lui donner son goût musical quasiment tout le reste de sa vie.
Ah ouais.
Si on lui fait écouter du hard rock, du métal, c'est pour ça qu'on a des vidéos où il y a des petites filles qui, dès qu'on met du métal, elles sont en train de danser, et dès qu'on met de la musique classique, elles se mettent à pleurer. Quoi.
D'accord.
Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas.
C'est certainement une incidence. Ça doit jouer sur les sentiments, je pense.
Ça influe certainement, oui.
Quand on évoque quelque chose de triste, c'est vrai que souvent la musique classique,
On la mettra à la fin de cette...
C'est vrai que moi, j'ai été gothique, j'adorais cette musique. Après, je suis devenue... J'ai été dans les rêves parties, les technivals, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas la techno qui te laisse des souvenirs musicaux, quoi.
Non, on les oublie, ceux-là.
Les souvenirs qui sont liés aux morceaux de musique. Moi, j'ai la chance d'avoir connu les années... 60, 70, 80, 90, enfin, vraiment la musique du début, et puis toute évolution, et je me suis toujours intéressée à la musique que mes enfants écoutaient, donc le rap, le rock, tout, et pour rester en communication avec eux, mais de cette là, j'apprécie toutes les musiques, j'aime beaucoup toutes les musiques. Alors, préféré en ce moment, enfin, tout le temps, c'est Muse, ça c'est...
Ah, moi j'écoutais Muse quand j'avais. J'avais pas 14 ans.
Il y a quelques années.
Mais si, j'avais 14 ans en fait, oui, évidemment. Mais par exemple, Muse, moi ça a été un des groupes de mon adolescente quand j'avais 14 ans.
Ma fille avait 4 ans, dès qu'elle avait un truc à taper dessus. Donc je l'ai mise à la musique. C'était l'éveil musical, hein, les tambourins, les trucs. Et elle a tout de suite chopé le truc du piano. Et puis. Voilà,
le plus dur au piano, c'est le rythme, justement.
Mais après, elle a peut-être ce talent, parce qu'elle a composé, elle a pas appris les notes, et après, jouer le piano, c'était naturel, quoi.
Et autodidacte.
Voilà, ouais.
Et alors, l'anecdote, c'est j'avais toute une collection de CD à l'époque, hein, puisque maintenant, ça marche plus par CD. Et,
j'ai toujours des CD.
C'est bien de les garder, mais... En fait, les CD, je pense que c'est la musique qu'on préfère, et puis les autres, on les download.
Exactement.
Et donc, j'ai une anecdote, c'est que je suis partie 2 mois en Espagne, et pendant 2 mois, tous les soirs, j'étais en boîte. Ouais. Quand je suis revenue, ça a été Sainte-Marie direct. Mais il y a une copine qui m'a dit, j'avais rapporté des CD de ce que j'écoutais en Espagne, sur lesquels je dansais. Elle m'a dit, je t'ai connue avec des meilleurs goûts musicaux. Hein. Et elle n'avait pas tort.
On a tendance à pas trop aimer les musiques dans les langues qu'on comprend pas, non, à part l'anglais.
Non, c'est pas ça. C'était quand on écoute des musiques espagnoles, c'était le rythme de la musique, le son de la musique. C'était pas une question de connaître.
C'était lié à un souvenir en particulier que elle n'avait pas. Donc forcément, elle l'appréciait moins.
Non, elle m'a dit t'as eu des meilleurs goûts musicaux. C'était pas pour ça. C'était vraiment parce que. Parce qu'elle a trouvé que la musique sur laquelle je dansais, c'était la musique d'adolescent, quoi. C'était la musique de gens qui avaient 15 ans, et moi j'en avais 33 à l'époque.
Bon, du coup, vous, aujourd'hui, est-ce que vous écoutez encore certaines musiques que vous écoutiez à l'époque?
Alors, Agnès,
je sais.
Dès que j'ai...
Sister of Mercy,
dès que j'ai... j'avais 5 gigas par mois, donc... Dès que j'ai mon forfait, j'écoute les films de Nephilim. les Chameleons, des groupes bien gothiques.
Que moi, par exemple, je ne connais pas du tout.
Ah, c'est la meilleure musique époque. Au monde.
Ah oui, carrément. Ah, oui.
Moi, j'écoutais du rap, je sais, à 14 ans, j'écoutais beaucoup de rap et du rock.
Est-ce que vous l'écoutez encore aujourd'hui?
Je l'écoute, mais pas le rap de maintenant, en tout cas.
Vous écoutez le rap de l'époque?
De l'époque, oui, qui était totalement différent.
C'est lié à un passage dans notre vie, donc forcément, c'est vrai que quand on l'écoute,
c'était plus comme une étape de maturation, je sais pas.
Moi, j'aime plus le rap, sauf il n'y a qu'une chanson que j'aime, c'est « Je me tire » de Maître Gims.
Vous n'avez pas choisi la meilleure.
Mais non, mais c'est pour le texte qui est avec.
Et vous, Génia?
Moi, j'écoute ça, c'est bon. Eminem.
Placebo, c'est ce que vous écoutiez à l'époque aussi.
C'était de vraies histoires.
Vous avez grandi en France, vous? Vous avez grandi en France? En Russie? Et alors, qu'est-ce qu'on écoute comme musique en Russie? Ça m'intrigue.
La musique russe. Et la musique américaine.
Ouais, d'accord.
Mais sinon, on écoute tout. Hein.
On écoute pareil?
Maintenant, on écoute tout.
D'accord.
On fait plus la danse comme ça, là?
La polka?
Ah si, bah, alors, ça c'est le folklore.
Ça, c'est des clichés, ça. Hein.
Mais ça, c'est le folklore. La musique folklorique, ça existe toujours.
Ce serait trop simple.
Ça existe
encore. À Nice aussi, ça existe. Chaque année, à Signé, il y a la fête.
Ça existe encore.
Ouais. C'est plus Signé.
Ah, là, oui, la fête des mai.
Ouais, je sais pas.
Oui,
je
sais plus trop. Oui, mais c'est une musique traditionnelle.
Oui, voilà, c'est ça, avec les Niçoises qui dansent.
Dans toutes les régions, dans tous les pays, il y a la base de musique folklorique qui reste. Et ce qu'il y a, c'est vrai que c'est quand les pays de l'Est, je pense surtout à l'Allemagne ou même à la Pologne, le rock est très, très dur. C'est vraiment... c'est ce que nous, on écoutait peut-être quand j'avais 14 ans ou quoi, mais eux, c'est toujours ancré maintenant et c'est très dur. Quand même.
C'est vrai qu'ils ont plus cette culture de la musique... rock énervé.
Parce qu'ils ont besoin de plus bouger.
Ils ont été... Ils peuvent bouger sur la techno aussi, ça marche aussi. Hein.
Je pense qu'ils ont été... ils n'ont pas eu le droit aux musiques.
Vous savez ce qui se fait maintenant?
À écouter les musiques qu'ils voulaient quand ils étaient...
Oui, c'était ça aussi. Oui, c'est vrai.
Oui, oui, il y avait une... C'était la loi comme
donc,
ça.
Donc du coup, ils sont justement bloqués dans leurs 14 ans d'époque.
Peut-être aussi, oui. C'est le métal.
Peut-être ça,
ah, c'est bon le métal, pourtant. Moi, je préfère le métal au rap.
Ah oui, oui,
chacun ses goûts, après, on va pas commencer à rentrer dans la comparaison.
Ça me, casse les oreilles.
Le système of a Down, y mélanger un peu les
deux.
Oui,
c'est vrai,
Ah, pourquoi pas.
Je vous propose de faire une petite pause musicale. Comme Sybille nous a proposé, on va justement écouter cette chanson de Radiohead. Allez, on se retrouve tout de suite.
Yeah. whatever you want. So very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Rebonjour sur Radio Z. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos commentaires sur l'audioblog Arte. Donc, nous allons continuer avec Marité, sa chronique mystère.
Alors, amis auditeurs de Radio Z, bonjour. De nouveau avec vous pour les bonjours ou mauvais jours du mercredi. Immédiatement, je lève le voile sur la chronique mystère de ce mercredi, 28 février. En parlant de bonjour, pensez-vous que l'on se dise bonjour partout dans le monde de la même façon ? C'est vrai qu'ici, on se serre la main, on se les bise, suivant les régions, c'est 2, 3, 4, on check. Ou...
Bon, genre, je sais qu'il y a un endroit où ils se mettent des coups de tête.
Oui, alors on va y venir.
Ah,
okay. Des bisous, les Russes,
mais
ils s'embrassent
partout
sur
dans
la
le monde.
Bouche.
Voilà.
Les Russes, ils s'embrassent.
Bonjour. Oui,
oui, les Russes s'embrassent sur la bouche.
Ça doit réveiller. Hein.
Ouais. Alors, et parfois, ce n'est pas si simple de se dire bonjour. Ce n'est pas si simple comme bonjour. Alors, des embrassades chaleureuses aux signes de tête discrets, chaque culture a sa façon de se saluer. Alors, il vaut mieux connaître les cultures pour éviter les impairs.
Oui.
Alors, au Kenya, on va sauter le pas. L'adamu, qui consiste à sauter le plus haut possible à pieds joints, est la danse de bienvenue avec laquelle les guerriers Maasai saluent les touristes. Je ne sais pas si vous avez l'image de ces grands guerriers tout le temps et qui sautent là à pieds joints, comme ça. Alors, au niveau cardio, c'est excellent. Alors, à l'origine, cette pratique était pour les jeunes hommes, pour montrer leur force athlétique lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte. C'était aussi une façon de séduire les demoiselles à marier. Alors, aux Émirats Arabes Unis, c'est le nez à nez. C'est un héritage bédouin. Cette bise de nez réservée aux hommes marque le respect. En 2014, suite à un coronavirus, les autorités sanitaires ont fait campagne pour la poignée de main, mais en vain. Les gens continuaient à se biser par le nez.
Ça, ouais, on me racontait que c'était les Inuits qui faisaient ça.
Bah oui, ça vient de... Ça, c'est le nez, le bisou
des Esquimaux.
Des Esquimaux, là. Voilà, ils font ça. Mais là, c'est vraiment le nez à nez. Hein.
D'accord.
Mais où ça ?
Je suis en train de montrer, alors que vous ne pouvez pas me voir. Hein. Donc, c'est le nez, le bout du nez, contre le nez. Il y a légèrement le front.
À retrouver en vidéo sur YouTube.
Voilà, à retrouver en vidéo sur YouTube, tout à fait. Alors, au Tibet... C'est pas montrer patte blanche, c'est montrer la langue blanche. Langue dharma, qui régna sur le Tibet au 9e siècle, était connue pour sa cruauté envers les bouddhistes et sa langue noire. Je suppose qu'il ne devait pas avoir une bonne hygiène de vie ou d'alimentation. Donc, enfin bref. Depuis, saluer en tirant la langue permet de vérifier que l'on n'est pas la réincarnation de ce souverain redouté. C'est une coutume qui tend à disparaître. Parce que forcément, à force de se tirer la langue, ça peut être mal interprété. Alors, au Pakistan, alors là, on se dit, t'as de beaux cheveux, tu sais. On évite le t'as de beaux yeux, mais c'est t'as de beaux cheveux, tu sais. Chez les Kalash, les femmes s'embrassent les tresses pour se dire bonjour. C'est une coutume très ancienne que cette minorité continue de pratiquer. Les femmes refusent le port du voile, c'est au Pakistan, et honore ses dieux par la musique, les danses et l'alcool. Évidemment, l'alcool, la fête est très folle. Alors, au Royaume-Uni, évidemment, la révérence pour saluer la reine. Alors, pour les femmes et les hommes, inclinent la tête. Accolades et embrassades sont impensables, ainsi que les grandes claques dans le dos. On ne voit pas auprès de la reine, lui balancer une grande claque dans le dos. Ça lui ferait tomber peut-être son beau petit chapeau qu'elle met à chaque fois. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est le front commun. Le hongi, c'est un salut d'une tradition maori. C'est le front et le nez. C'est un échange de souffle de vie encore pratiqué pour accueillir les étrangers et les dignitaires. Alors, aux États-Unis, bien malgré ce qu'on peut penser, c'est la bonne distance, c'est le fameux câlin, le hug. Alors, c'est une accolade qui est codifiée, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas dans les bras avec le buste collé en serrant très fort. Il n'y a pas de contact du buste, c'est juste les épaules qui se touchent. Alors, ça dure 3 secondes, sinon ça devient un peu gênant. Alors, au Japon, évidemment, ça... D'ailleurs, quand il y a des Japonais en France, on les reconnaît tout de suite, parce que c'est l'art de se pencher. Alors, ce salut fait partie intégrante de l'étiquette. Les hommes ont les mains, le dos droit, mais la taille courbée, avec les mains le long du corps. Les bras et les mains le long du corps. Tandis que les femmes ont les mains sur les genoux. L'inclinaison du buste dépend de la position hiérarchique de la personne saluée. C'est-à-dire que plus elle est haut placée, plus finalement on se baisse devant
elle. Plus on montre du respect.
Voilà, on se baisse devant elle. Alors, en Inde, il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est on touche les pieds des gens on met ses mains au sol et on touche les pieds. C'est pour montrer du respect, parce que c'est une posture d'humilité. Ça tend aussi à disparaître. Voilà.
Tu parles de l'Inde.
Voilà, ça tend à disparaître, mais c'est vrai qu'en Inde, ils ont beaucoup, de toute façon, ils se lavent. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'humilité.
En Inde, il y a la secte des eunuques où ils s'embrassent, je ne sais pas comment ils s'appellent, Satos, dessus des fesses, là. Ils s'embrassent l'os.
L'os au-dessus des fesses, c'est le coccyx.
Il est en dessous le coccyx. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Non, enfin, on va éviter de se baiser les fesses. Alors sinon, il y a un petit proverbe italien qui dit qu'un baiser donné en temps opportun épargne bien des salutations distinguées. Voilà. Alors, pour en revenir un tout petit peu à l'Inde, en égard aux générations et aux aînés, c'est aussi, et aux religieux, c'est aussi pour ça qu'on baisait les pieds. C'est vrai que quand on pense à certaines religions, c'est vrai qu'on baisait les pieds. C'était même les statues, on baisait le pied des statues. Voilà, alors j'en ai fini pour aujourd'hui de la chronique mystère. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Merci,
Marie. Et merci de votre écoute.
Mais alors, il y a plein de pays dont on n'a pas parlé, mais qui ne sont pas très éloignés culturellement
France,
de nous,
la région.
Comme même les États-Unis, juste, qui au début, on a tendance à tout de suite faire la bise ou même à serrer la main. Donc eux, tout de suite, c'est serrer la main. Et même après quelques jours, juste. De relations, on va dire, même sans être rentré dans une relation amicale, eux ils ont tendance tout de suite à prendre les bras.
Voilà, c'est le hug, c'est ce que j'expliquais.
Ah,
mais il y a une distance quand même. Quoi. On touche, j'ai expliqué, c'est pas le buste, c'est juste les épaules. En fait, on est courbé. Alors, si on est peut-être italien, parce que les Italiens ils font ça avec l'aigle dans le dos.
Les Italiens, c'est pas pareil. C'est à cause de la mafia, c'est pour voir s'ils sont pas armés.
Elle a tout à fait raison, c'est vrai.
Mais il y a les Tchèques aussi.
Mais moi, je dis ça parce que quand je suis allé aux États-Unis, j'ai pris un Airbnb, donc je dormais à tes souhaits, chez l'habitant, qui au début m'a serré la main très froidement. On s'est pas parlé de la semaine, on s'est juste dit bonjour, ça va, bien dormi, ouais, super, allez, salut. Et à la fin de la semaine, quand je lui ai rendu mes clés, on se connaissait pas, et il m'a fait un gros câlin. Moi, j'étais très gêné parce que je ne le connaissais pas, et lui était vraiment. Il m'a fait un gros câlin.
Mais tu as ça.
Très exagéré.
Il y avait peut-être un autre message.
Ce qu'ont vécu des deux japonaises qui étaient en France, c'est que moi, je les ai vues, elles étaient dans le groupe d'amis. Je leur ai fait la bise, comme à tous les autres. Et elles étaient très, 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 très gênées. Hein. Elles ont eu un mouvement de recul en France, c'était des Japonaises qui étaient en France. Mm-hmm. Mais moi, je leur ai fait la bise parce que c'est ce qu'on fait ici. Mm-hmm. Mais elles, le contact physique était très intrusif pour elles.
Moi, j'ai vu une geisha, mais une vraie, dans le train qui allait à Monaco. Je voulais la prendre en photo, mais j'ai pas osé parce que j'ai pas.
C'est une intrusion.
J'avais peur de que ce soit mal pris, quoi. Ouais. Mais une vraie avec les petites chaussures, parce qu'ils se bandent les pieds pour avoir les petites chaussures, pour avoir des petits pieds, ouais. Tout ça. Était, elle avait vraiment toute la tenue traditionnelle de la gaïcha, quoi.
Et même, pardon, vas-y. Même en France aussi, j'allais penser, bon, alors là, c'est pas aussi différent, mais il y a toujours les éternels lieux où c'est trois bises et les
autres, oui, c'est suivant les régions, la Bretagne,
quatre des fois. Des fois, tu te prends des vents dans la tête un peu. Ah bon, encore une.
Mais Agnès, tu te rappelles de Livia?
Oui.
Qui venait du Brésil, qui a un peu travaillé avec nous sur Radio Z.
Oui.
Donc elle venait du Brésil, elle est venue ici habiter en France, et au début où elle est arrivée ici avec nous, et nous on allait lui faire la bise, et elle avait toujours cette tendance à nous serrer la main, à nous tendre la main, elle s'est un peu fait violence pour la deuxième fois où elle est venue, nous faire la bise. Pour elle c'était pas du tout naturel. Mm-hmm. Pourtant c'est des pays qui culturellement ne paraissent pas très éloignés, quoi.
Oui, oui, c'est vrai.
J'avais un copain qui était allé en Australie rejoindre sa fiancée, et il disait que là-bas, ils ne s'embrassent pas. C'était vraiment très mal vu de s'embrasser, quoi.
En public ou même tout court?
Même tout court, là-bas.
Même tout court, ah ouais.
Enfin, oui, en public.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a des pays où en public, tu montes.
Puis il m'expliquait pas de qu'en plus, il avait un peu de ketchup, et puis le ketchup, il ne tombait pas, il disait comme. Et comme en anglais, ça veut dire...
Viens.
Ça veut dire viens, mais là, c'était un double sens. Et tout le monde s'était foutu de ses
Mais il vaut mieux savoir ça. Merci, hein, si jamais on veut voyager pays et qu'on nous tire la langue quand on arrive au Tibet, qu'on sache que c'est pas...
ce sera sur le...
Tout sera écoutable sur l'audio blog,
en podcast.
L'audio blog d'Arte et Radio Z, où il faut absolument nous faire des commentaires.
Alors,
n'est-ce pas, Agnès?
J'ai écouté les dernières émissions.
Et mettez des likes.
T'as rajouté les musiques. Il y a une superbe musique. Je ne sais plus si c'est sur le deuxième ou troisième. Enfin, vraiment.
Ah c'est ouais. Deosan. C'est la musique de Deosan que Guy nous a
remercier.
Fait
écouter. Oui, merci. C'est vraiment, je l'ai remis en boucle, tu vois.
Donc, merci Marie-Thérèse pour cette chronique. Et donc, chronique... normalement, il y a la chronique surprise d'Agnès.
Ah non,
mais
non,
là, aujourd'hui,
non.
Elle a chômé.
Ouais.
Donc aujourd'hui, exceptionnellement, c'est la chronique surprise de Guy.
Eh ben ouais, écoute, voilà. je
comme
me suis
ça
lancé.
Venu, elle a été surprise.
Je me suis dit, que je sais pas quand c'est que j'aurai l'occasion de revenir à la radio, comme je suis souvent à la rando. C'est presque pareil, radio, rando.
Hein. Rando Z.
Mais comme je suis là aujourd'hui, je me lance. Je voulais vous parler de l'oisiveté. Est-ce que...
Oui, c'est vrai, on en a parlé de ça.
Ça vous parle?
Par contre, déjà que tu n'es pas là souvent, si tu veux qu'on t'entende, il faut parler dans le micro.
Il faut que je parle dans le micro. Eh bien, écoutez, avant de me lancer dans la réflexion sur le thème de l'oisiveté, et je vais faire mon petit intellectuel et je vais essayer de définir le terme pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et il me paraît d'autant plus important d'en passer par là du fait qu'en fonction des époques, ce mot s'est vu associé à divers jugements de valeur. Alors, au niveau étymologique... L'oisiveté est rattachée depuis l'Antiquité romaine à l'otium, ce qui signifie l'inaction, le désœuvrement, mais ce qui comporte aussi, et c'est là que c'est intéressant, les notions de paix, de calme, de temps libre, de loisir. En réalité, à cette époque, ce terme est opposé à tout ce qui ne concerne pas la politique, les affaires, les contraintes. Un homme oisif est un homme à l'écart des affaires publiques. C'est au XIIIe siècle que ce mot connaît un virage. S'il est toujours associé à l'inaction, les notions de calme et de paix sont abandonnées au profit des notions de paresse et de fainéantise. Ce virage se retrouve dans l'étymologie des mots dont l'oisiveté est dérivée. On passe donc d'un stade où le fait de se tenir à l'écart des affaires publiques est perçu comme une opportunité pour développer d'autres activités, à travers les loisirs par exemple, ou d'autres qualités, à travers la méditation par exemple, à un stade où ce temps libre est perçu comme du temps perdu, du temps où on ne fait rien d'utile. Entendu par là qu'est utile uniquement ce qui se rapporte au travail ou à l'argent. Voilà pour la contextualisation et le petit saut dans le temps. Mais ce qui m'intéresse de développer à présent, c'est le rapport que nous entretenons aujourd'hui avec l'oisiveté. Je tiens à préciser que je ne suis pas un spécialiste et que je ne parle que de mon ressenti en essayant toutefois de justifier par des faits objectifs. Il me semble que c'est la deuxième version, celle du XIIIe siècle, qui associe l'oisiveté à la fainéantise, qui reste majoritaire aujourd'hui, et ce, malgré le succès et l'augmentation des activités de loisirs. Quitte à passer pour un punk à chien, ou un bobo chevelu qui se promène pieds nus...
Un punk à chien ?
Un punk à chien.
C'est quoi ça ? Jamais entendu parler.
Ou un bobo chevelu qui se promène pieds nus sur les pelouses en prenant soin de ne pas écraser les pâquerettes. Vous voyez le genre ou pas ? Je dirais que l'importance accordée au travail, à la productivité et à la consommation, putain de société de consommation, est en partie responsable de cette vision négative de l'oisiveté.
C'est vrai.
Pour justifier cette impression que la valeur travail reste un pilier dans notre société, je vais m'appuyer sur les résultats des dernières élections présidentielles.
Oh putain.
Benoît, si tu nous écoutes. Les candidats ayant remporté le plus grand succès ont tous défendu ardemment la valeur travail, quel que soit leur bord politique. À droite, on a plutôt tendance à le considérer comme un moyen d'émancipation, comme un marqueur de notre intégration, comme un levier pour s'épanouir en tant qu'individu dans ce monde merveilleux et plein de promesses tant que la croissance est au rendez-vous. À gauche, on a plutôt tendance à le considérer comme le garant de notre survie en ce bas monde si cruel et si inégalitaire. On préfère l'idée de se battre pour conserver son poste à celle de se battre pour nous permettre d'en changer.
Yes.
Certes, il y a bien une petite voix, toute petite, 6%, c'est pas grand-chose tout de même, qui se lève et qui essaye de se faire entendre.
Hé hé, youhou, je suis là, c'est moi, Benoît.
Et c'est bon le micro, là ?
Oui, c'est bon, vas-y.
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un autre rapport avec le travail ?
Bon, je sais pas si je l'imite bien.
Ça vous dit, non ? Non, non, bon, bon, d'accord, j'ai rien dit alors. Allez, si, vas-y, Benoît. Dis-nous tout. Sur Radio Z, tout le monde a le droit de s'exprimer.
Bon, d'accord.
Alors voilà. Parce que moi, j'avais une idée, en fait. Je me suis dit la chose suivante. La révolution technologique bouleverse nos modes de vie et de plus en plus de machines peuvent faire le travail que les hommes faisaient autrefois. Un travail souvent pénible et fatigant. Alors, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle ? Bonne nouvelle, évidemment. Ça nous libère du temps et voici le retour de l'oisiveté productive d'antan.
Non, excusez-moi, Benoît, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, je me sentais tout émancipé quand je travaillais 20 heures par jour avec ma bêche dans les champs. Plus j'avais mal au dos et plus je me sentais appartenir à ma ruralité. Et depuis l'arrivée des tracteurs, je vois plus le sens à mon travail. Et en plus, je vais plus voir l'ostéo. Alors comment il gagne sa vie, lui, hein ? J'y viens, monsieur le cutéreux. Grâce au revenu universel d'existence que je propose dans mon programme, plus de problèmes pour vous et plus de problèmes pour votre ostéo. Tout le monde, il est content. Laissez votre tracteur travailler, on va le taxer, ce qui nous permettra de financer ce revenu pour l'ensemble de la population. Alors, qu'en dites-vous ?
Eh bien, moi, j'ai un problème, Benoît. C'est une autre personne, hein ?
Oui, parce que là...
Vous arrivez à vous y retrouver ?
Faut que tu changes de voix. Parce que
faut que je change de voix. Eh bien, moi, j'ai un problème, Benoît. Si grâce à ton revenu, les gens peuvent changer de travail plus facilement, s'il leur permet de s'émanciper de leur travail plutôt que de s'émanciper par le travail. Alors à quoi je vais servir, moi ?
Oui, monsieur...
Monsieur Martinez de la CGT.
Eh bien écoutez, monsieur Martinez, vous pourrez vous aussi goûter aux joies de l'oisiveté productive d'antan. Bon, allez les gars, faites un effort. Ça fait deux fois que je dis l'oisiveté productive d'antan. Je suis super fier de ma formule. C'est moi qui l'ai inventée et personne ne m'interroge sur ce sujet. Soyez sympas. En plus, c'est la conclusion de ma chronique, alors. Je vais vous dire ce que j'entends par l'oisiveté productive d'antan. J'ai fait exprès d'associer le mot oisiveté au mot productif, parce que pour les gens simples, ça ne peut pas aller ensemble. Ah ah ! Quelle tristesse de ne pas avoir une pensée complexe telle que la mienne.
C'est long.
Si on pense qu'une personne sans occupation va forcément se tourner vers la délinquance, la drogue, les jeux, les séries, si on pense qu'être productif, c'est forcément produire quelque chose d'utilitaire, de rentable, quelque chose qui se rapporte à la richesse financière, alors effectivement, l'oisiveté est à craindre. Mais si à l'inverse, on pense que laisser une personne sans occupation, c'est lui permettre de découvrir ses potentialités, ses passions et d'élaborer ses propres projets, si à l'inverse, on pense qu'être productif, c'est aussi produire de l'inutile, quelque chose qui se rapporte à la richesse spirituelle, humaine, artistique, et j'en passe. Alors oui, il faut souhaiter l'oisiveté. Bien, c'est à vous que je m'adresse maintenant, amis auditeurs et amis chroniqueurs, si vous êtes en train de m'écouter. Dites-moi, eh ben dites-moi, le retour de l'oisiveté est-il à déplorer ou à encourager?
Alors tu parlais de l'oisiveté quand
de l'oisiveté qui était pas quelque chose de
très juste.
De
l'oisiveté qui était oui, de par rapport donc à ce progrès. Par exemple, dans l'intelligence artificielle,
oui.
Avec les robots, tout ça, c'est vrai qu'on se demande, quand ils feront le boulot à notre place, nous, on aura quoi à faire? On pourra se droguer, on pourra...
Ah oui, faut pas tout de suite partir vers les choses négatives. Déjà, oui, j'ai toujours remarqué quelque chose, c'est quand les enfants commencent à aller à l'école, tout ça. Alors, peut-être parce que les parents travaillent, peut-être, mais les enfants... Bon, alors, admettons, le mercredi, alors le gamin, il va à l'école le matin, l'après-midi, il va au tennis, après, il va à la bibliothèque, après, il va au foot, et alors, tout est calculé, il n'a pas de temps, il n'a même pas le temps de s'ennuyer. Et, alors, moi, ça j'ai toujours dit que c'était trop. Les enfants, ben, ils ne peuvent plus jouer avec rien. Ils font toujours qu'ils soient occupés, qu'ils soient... Et ils n'apprennent pas à s'ennuyer sainement, je dirais. Tout à l'heure, Raphaël a parlé de l'art de ne rien faire, et d'apprendre justement à méditer, à rester sans rien faire. Et, ça fait tout aussi, et c'est très productif. Peut-être que ça rejoint justement ton idée, parce que ça permet de se rapprocher... de l'art, de la musique, regarder un tableau, voilà, mais d'être tranquille, de faire ça tranquillement sans être obligé de regarder l'heure. Et
En tout cas, comment dire, ne rien faire, moi, ça m'a permis d'apprendre la musique, et ça, c'est une bonne chose. Après, ne rien faire, ça m'a appris à en devenir dépendant aussi au bout d'un moment. Mmh. J'appréciais vraiment de ne rien faire, quoi. L'oisiveté, justement, mauvaise, où même ma musique n'évolue plus, où je ne lui accordais plus aucun sens. Juste, je jouais pour jouer, pour m'amuser, voilà. Mmh.
Mais ça,
c'est la mauvaise, on va dire, entre guillemets, oisiveté. Après,
ah,
la bonne oisiveté, comment dire? Je sais pas.
Mais parce que peut-être, là, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être un équilibre à réfléchir entre les deux.
C'est ça.
Que un peu de temps où on s'ennuie permet l'émergence de notre créativité et de choses qui émergent de nous, et pas des choses qu'on nous enseigne encore une fois.
Qui développent l'imagination, des choses comme ça.
Qui développent l'imagination, effectivement. Mais effectivement, si on n'a que ça, et qu'on n'est jamais nourri de l'extérieur par des gens, et peut-être, effectivement, là, on tombe dans une oisiveté qui est un peu plus...
malsaine, contre-productive.
Stérile. Moi, ça me fait toujours penser à une dissertation qu'on a eue à l'école, « L'oisiveté est mère de tous les vices ». Alors, disserter, c'est vrai que...
Oui et non.
Oui et non, voilà. Donc, c'était bien la dissertation, oui et non.
Moi, ce qui m'a donné envie d'écrire l'article, c'est que quand on entend parler de ça actuellement, je trouve qu'on entend trop souvent parler de la version négative de l'oisiveté.
Oui, c'est la partie des 7 péchés capitaux.
Oui, mais pour autant, on oublie de dire que à être à la course comme ça, être occupé en permanence, on en oublie aussi le sens profond de ce qu'on a envie de faire. L'accès à l'art, mais aussi la spiritualité, enfin, toutes les choses qui demandent un peu plus de temps, peut-être, justement.
Donc, il y a ça à craindre des robots, de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi tout ce que vont faire ces robots comme travail. Est-ce qu'il sera redistribué aux citoyens
Alors, on n'en sait rien, mais là, de quand même, les gens qui s'intéressent à cette question-là, ils parlent beaucoup de taxer les robots. Et du coup, comme de la même manière aujourd'hui, on taxe le travail des humains, et bien là, si ce travail il est fait par les robots, les taxer et de redistribuer cet argent comme de redistribuer avec les impôts.
En tout cas, les employés de Carrefour, ils font grève. Hein. Ils bloquaient les caddies, j'avais entendu parler, parce qu'on voulait les remplacer, les caissières, par des machines.
Mais j'ai entendu parler de ça aussi.
Mais ça, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Je veux dire, c'est grâce aux grèves aussi qui ont commencé en... 45 après la guerre, qu'on a obtenu les 35 heures, les 39 heures, le droit aussi aux vacances.
Oui, c'était des droits, c'était bon, maintenant qu'ils sont des acquis.
Mais maintenant, les droits, on essaie de diminuer et de passer au système américain. Le problème, c'est que pour passer à l'Uber, les Français ne sont pas du tout prêts à ça, quoi. Ne serait-ce que pour les chauffeurs de taxi, par exemple.
Voilà,
ils payent des sommes énormes pour avoir leur licence. Et à côté de ça, il y a des Uber qui arrivent et qui leur font payer que dalle. C'est normal qu'ils soient fâchés. Le système ne peut pas changer comme ça.
Non, il y a des tas de...
Il n'y en a pas la même. Les Français n'ont pas du tout la même mentalité que les...
Il y a des tas de métiers qui vont disparaître, comme taxi, par exemple, avec la voiture autonome, comme le domaine du médical. Maintenant, on peut opérer à des kilomètres... d'où ce jour l'opération.
Ça a toujours été le cas, ça, c'est l'évolution. Il y a des métiers qui existaient.
Et aussi.
Exactement, il y a le musée des arts et métiers anciens, des métiers dont on ne soupçonne pas aujourd'hui l'existence, qui aujourd'hui ont disparu. Mais il y a aussi l'émergence de nouveaux métiers.
Mais est-ce que c'est vraiment une évolution que de remplacer des personnes qui travaillaient dans la caisse, par exemple les caissiers, par des caissiers automatiques.
Ouais, oui, dans le milieu.
Il y a les deux.
Parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail.
Ça
représente une grande quantité de travail.
Au niveau du commerce, on parlait quand même de la mort du petit commerce. Il y a eu les grandes surfaces et tout. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien aller dans les petites épiceries où on connaissait.
Les carrefours, ils ont fait carrefour.
Mais aussi dans le milieu juridique. De nos jours, les ordinateurs, ils peuvent traiter jusqu'à 750 000 dossiers sur la personne qui a commis un délit. Et il n'y a plus besoin d'avocat, il n'y a plus besoin de juge.
Non.
Mais après, en même temps, là, sur l'aspect de dire c'est des métiers qui disparaissent et tout, vous en pensez quoi de l'idée ? Est-ce qu'il faut absolument se battre pour que certains métiers continuent d'exister, ou est-ce qu'il vaut mieux se battre pour que les gens qui avaient ces métiers-là qui vont disparaître arrivent à trouver de nouveaux métiers?
Justement, encore
les deux.
Par exemple,
si on peut faire les deux.
Le père de mon ami était artisan, il était tapissier décorateur toute sa vie. À la retraite, là, il gagne avec sa femme. Sa femme, elle gagne 150 euros par mois parce qu'elle travaillait, elle faisait des ménages au black. Et donc, lui et sa femme, en tout, ils ont 1100 euros par mois pour vivre. Moi, en touchant la hache, j'ai 900 euros par mois et le plus le bus gratuit.
C'est un autre débat, ça.
C'est un autre débat. Mais on a déjà eu, je crois, celui du revenu universel après. Je veux dire, si tout le monde avait une base commune, par rapport à...
Il y en a qui
ça marcherait pas.
Oui, mais du coup, ceux-là, ils travailleraient plus pour avoir plus d'argent.
Ce serait pas forcément l'évolution de... Parce que les gens, à force de courir après la réussite, c'est comme ça qu'ils ont fait avancer les choses, quand même.
C'est ce que disait
À certains moments de notre époque.
C'est l'évolution vers l'oisiveté, en fait. On n'aura plus que...
Oui, mais justement, en fait,
C'est
que justement, c'est pour ça que à un moment, je parlais des présidentielles. Alors, sans repartir là-dedans, mais parce qu'il y en a un seul qui a défendu cette idée en disant que l'oisiveté n'était pas forcément une chose à craindre. Sinon, tous les autres, effectivement, ont dit, mais mon Dieu, si on donne de l'argent à tout le monde comme ça, sans rien faire, mais ils ne voudront jamais travailler, ça va être la catastrophe, c'est favoriser l'oisiveté. Mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ? Enfin, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas la réponse,
Ça dépend pour qui.
Ils regardent surtout le porte-monnaie. Tant que ça leur rapporte, ils sont pour. Quand ça ne leur rapporte plus, ils sont contre. En politique.
Non, après, ça peut aussi permettre ce revenu à certaines personnes d'exercer un métier dont elles rêvaient et de vraiment choisir de faire ce qu'elles veulent. Aussi, ou pas avoir que des métiers alimentaires, je veux dire.
Ouais, voilà. Le système tel qu'il est fait aujourd'hui, il pousse pas mal de gens à choisir des métiers juste pour gagner de l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour vivre.
La surprise, c'est que quand j'étais petite, j'avais des rêves un peu fous, être hôtesse de l'air, être prof de sport, même à l'adolescence, je changeais d'idée tous les quarts d'heure. Et j'ai travaillé pendant pas mal de temps en centre aéré, et quand je demandais aux gamins ce qu'ils voulaient faire, ils disaient gagner de l'argent. C'était leur seul but. Et des gamins de 10 ans, de 8 ans, de 10 ans... Non, mais on ne peut pas tout avoir avec l'argent. Je veux dire,
une sale évolution, mais malheureusement...
Il y a des gens qui sont pleins de fric et qui sont malheureux. C'est ceux-là qui sont les plus malheureux parce qu'ils ne savent pas... Déjà, il faut savoir que l'argent, ça se gère. Quand on reçoit une grosse somme d'argent, il faut savoir comment la gérer. Ça ne s'apprend pas forcément à l'école, loin de là.
Moi, je, par exemple, j'avais toujours des bons résultats scolaires à l'école, ça m'empêche pas d'avoir complètement raté ma vie. Et je pense pas que l'argent fait le bonheur, quoi.
En tout cas, pour revenir sur le débat, y a des métiers qui vont disparaître, mais il y a des métiers qui vont apparaître aussi.
Bah, non, c'est les robots qui vont le faire à la place.
Non, mais de toute façon,
les robots ne pourront pas tout faire.
Ouais. Eh ben, justement.
Qui c'est qui va créer les robots?
Ben voilà,
c'est voilà.
Et qui c'est qui va entretenir les robots?
D'autres robots.
D'autres robots.
Ouais, alors, si on pousse,
mais qui va créer les robots qui entretiendront les robots?
Le bouchon.
On peut se les faire entre eux.
Imagine, le robot devient animal.
Si on pousse le bouchon très loin, l'autre jour, j'ai vu un article. Axel Kahn, il s'appelle, c'est un gars qui a étudié la question de l'intelligence artificielle. Et il disait que, bon, pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour, mais que ça pourrait peut-être arriver un jour que les robots soient tellement performants qu'ils arrivent eux-mêmes à créer des robots. Que les et je ne sais plus comment ça s'appelle ce stade-là, c'est mais c'est le stade de la machine
évolution.
Autonome.
L'évolution de la robotique.
C'est déjà au Japon.
Et
il y a des robots qui font tout.
Oui, mais là, qui carrément seraient des forces créatrices, qui ne seraient pas simplement le programme suit comment l'homme a conçu le programme, tu vois. Là, ce serait.
Et imagine, le robot devient animal, mais il a une âme. Une âme d'animal.
Bon, ça, il
aura des psychologues de robots.
Dans l'article, il pense que ça, par contre, ça ne peut pas arriver. Qu'il y a des domaines qui restent à l'humain et
mais
qui sont
mais bien sûr, il y aura forcément des choses.
Les émotions, les valeurs, ce genre de choses.
Dans l'art, dans les arts en général, ce sera très difficile qu'un robot devienne
un artiste
avec une inspiration, oui. Ça paraît,
ça paraît hallucinant.
On fait des tablettes, on a fait déjà des tablettes où on peut faire, on peut dessiner dessus. On peut faire, moi sur mon portable. J'ai une touche à appuyer, ça fait un dessin.
Si le robot il capture ton cerveau et il le manipule, tu vois.
T'as peur.
L'évolution.
Mais par contre, ce qu'il dit aussi dans l'article, c'est que si.
Il aspire son inspiration.
Regarde, Agnès, pour te rassurer sur le fait qu'il y aura toujours du travail.
Tu appuies sur une touche et en fait, on dirait que c'est un dessin.
J'attends que Sybille finisse. C'est que si les métiers, effectivement. Un peu automatiques ou qui peuvent être remplacés par les robots. Ouais. Si on dégage ce travail-là pour les hommes, il disait aussi que ce serait autant de place, comment dire,
autant de nouveaux métiers. Pour,
non, mais surtout ce que peuvent pas faire les robots, comme par exemple l'accompagnement justement des êtres humains, tous les métiers dans le social ou dans la psychologie ou je ne sais quoi. Et s'il y a plus de personnes qui pourront faire ça, ça c'est tant mieux pour l'humanité, non?
Bien sûr.
Ça va ouvrir la voie à des nouveaux métiers. Je n'aurais pas pensé.
Voilà. Tout à fait.
Alors, affirme Mathieu.
Dites-toi un nouveau métier.
Chasseur de Pokémon.
Chasseur de Pokémon. Ça, je pense que les robots, ils nous gagneront. Ça, je pense.
Bah, y a un métier, les e-sports, hein, déjà. Les e-sports.
Ah, les e-sports, oui, avec les ordinateurs.
Pas que ça, mais avec les ordinateurs.
C'est les concours de jeux vidéo.
Ouais. En ligne, ils arrivent quand même à bien gagner leur vie et ça reste que du jeu, entre guillemets, même si eux, ils sont obligés d'en faire 8 heures par jour. Voilà. Mm-hmm. C'est que du jeu, mais ils arrivent à gagner leur vie grâce à ça, quand même.
C'est très difficile, l'informatique. Je suis pas
bon, c'est limité, mais bon.
Je suis pas génération informatique et on a beau m'expliquer, me réexpliquer, prendre des notes et tout ça, pour moi, c'est très difficile d'utiliser un ordinateur.
Je propose qu'on mette fin au débat et à cette émission, parce que nous atteignons les 1 heure d'émission.
Ouf.
S'il y a des gens qui nous écoutent encore là maintenant, tout de suite, bravo. J'espère que vous n'êtes pas des robots.
Bon, et ben, sur Radio Z, on vous dit au revoir.
Et
merci.
Et ben, rentrez bien dans votre maison.
Et faites attention aux robots.
Faites attention aux robots.
Et réfléchissez à des nouveaux métiers.
Sur Audioblog Arte.
Laissez vos commentaires et likez-nous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Salut. Au revoir.